La lumière des grands saints, elle est parfois si forte qu'elle éblouit nos âmes, elle les bouleverse, elle les conquiert d'emblée. Quand on voit un saint François d'Assise, un Padre Pio, c'est édifiant. C'est bon de voir ces exemples forts qui s'imposent à nous. Mais reconnaissons-le, le plus souvent, la lumière quotidienne d'un autre saint plus discret, d'une vie exemplaire, pénètre lentement et tout aussi profondément nos cœurs. C'est comme les premières lueurs de l'aube qui envahissent la campagne au petit matin. On a tous assisté à ce spectacle-là. C'est des lueurs qui nous apprivoisent en silence. Il n'y a personne au matin. Il y a ce lever de soleil qui s'accomplit. Et cette lumière vient apprivoiser nos zones d'ombre, nos obscurités de la nuit. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de Saint Joseph. Parce que vous savez que le pape a sorti une lettre apostolique qui s'appelle « Avec un cœur de père » et on a réfléchi entre nous les prêtres de la paroisse et on s'est dit que ça serait peut-être bien de vous introduire à cette lettre parce que dans ce temps de crise que nous traversons, eh bien Saint Joseph nous enseigne. Et il nous enseigne comme il sait si bien le faire, silencieusement, mais efficacement. Parce qu'il a vécu lui-même l'écoute de la parole de Dieu, comme Samuel, dans la première lecture, parle. « Seigneur, ton serviteur écoute. » Joseph est un homme disposé. Comme les disciples, les deux disciples entendirent, écoutèrent ce que disait Jésus et ils le suivirent. Et Joseph est un homme qui a eu beaucoup de temps de silence, beaucoup de temps d'accueil et donc beaucoup d'écoute. Et donc beaucoup d'actions ajustées. Alors j'aimerais vous reprendre la lettre du pape François que je vais paraphraser en deux parties. D'abord, accueillir sa propre histoire et puis le courage créatif de Saint Joseph. Accueillir sa propre histoire. Celle de Joseph, elle est compliquée. Elle commence par des fiançailles douloureuses. Il est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Mais puisque c'est un homme ajusté, eh bien, il y a un premier songe de l'ange qui l'aide à résoudre son problème. Et grâce à son obéissance de ce que lui dit l'ange dans son songe, eh bien, il surmonte le drame et il sauve Marie. Et Joseph n'hésite pas à obéir, il sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. On dit de Joseph qu'il attend avec patience l'ange qui est promis. Quand il est dans la fuite en Égypte, il attend un ange qui vienne lui parler pour lui dire quand est-ce qu'il doit retourner. Joseph ne maîtrise pas les événements. D'une certaine manière, les événements se sont imposés à lui, mais il les a rechoisis dans la confiance. Et bien des fois, les événements dont nous ne comprenons pas directement la signification des choses qui s'imposent à nous, surviennent dans notre vie. Et reconnaissez-le, notre première réaction, c'est souvent la déception ou la révolte. Je vous l'avais dit, je crois, dimanche dernier, on n'aime pas beaucoup le changement. Je vous l'avais dit moi-même, quand la couverture de famille chrétienne change, je trouve que c'était mieux avant. Vous voyez, c'est quand même un micro-événement. Alors imaginez pour Joseph, on lui dit « faut que tu ailles en Égypte ». Puis tu y restes et puis on donnera le signal. Et Joseph, il arrive en Égypte, il est sur la paille. Hein. Il a tout quitté à Nazareth, ses outils. Il se retrouve juste avec l'or des rois mages pour vivre comme il peut. Et puis il se dit, combien de temps je vais rester dans ce pays étranger? Combien de temps ça va durer cette crise? Eh bien non, Joseph, paisiblement, a confiance en Dieu. Sa confiance en Dieu est plus grande que les événements troublants qui l'agitent. Et Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Il l'accueille et il accepte, il se réconcilie avec sa propre histoire. Il accueille la responsabilité qui est la sienne. Il se réconcilie avec sa propre histoire parce qu'il sait qu'il est dans le monde sans être du monde. Il est solidaire du monde dans lequel il est. Et ce monde dans lequel Joseph est marqué par la domination d'Hérode, la domination de l'Empire romain. Joseph ne se soustrait pas au recensement. Il y va. On l'a vu à la veillée de Noël, on ne sait pas quelle case il faut qu'il coche pour aller à Bethléem, motif familial impérieux, cause d'intérêt général. Il a coché toutes les cases finalement. Et il est solidaire de la complexité qui marque l'histoire avec un grand H et donc aussi son histoire. Joseph ne se désolidarise pas du monde en disant bah, « le monde est foutu, le monde est pourri, alors je me mets à l'écart et puis je vais vivre ma vie à moi, avec ma petite famille, tranquillement, bien au chaud. » Non, il accepte d'être lui-même dans le monde, travaillé par le monde. Et je crois que Joseph, ce qu'il aime dans le monde, ce n'est pas tant ce qu'il y a de perdu que ce qu'il y a à sauver. Il y a déjà une grâce qui est donnée à Joseph de voir que par ce petit bout de famille qu'il porte, il y a quelque chose qui soulèvera le monde. Alors qu'il aurait pu penser que le monde l'écrasait et les événements. Eh bien non, c'est sa famille, c'est Marie et Jésus qui soulèveront le monde, qui changeront la face de ce monde. Ce n'est pas le nez de Cléopâtre. C'est sa famille. C'est beau ça. C'est sa famille qui va changer le monde. Mais dans le monde. On voit que la vie spirituelle que Joseph nous montre, dit le pape, n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est intéressant de voir que nous, souvent, on a des soubresauts intérieurs, on est compulsifs, oui, mais de voir que Joseph, lui, simplement accueille la réalité comme elle est. Ce n'est pas un homme passivement résigné, parce qu'on voit que Joseph, s'il accepte les contingences de ce monde, il prend toute sa place, il est courageusement engagé. Il laisse place à l'Esprit Saint pour le guider. Dans les parties de sa vie qui sont inattendues, parfois contradictoires, décevantes peut-être même de l'existence. Vous voyez, il ne cherche pas des raccourcis pour court-circuiter le réel. Bon ben on va fuir, on va se mettre à l'écart, ou je me mets à l'écart du monde, ainsi de suite, ou des autres, ou je fuis. Non. Il regarde les choses en face. Et sans doute que Joseph a été interpellé dans sa foi par le martyre des saints innocents. Vous voyez, la première chose qu'il voit après la naissance de son fils, c'est le martyr des saints innocents. Ça a dû l'interroger. C'est quoi ce plan de Dieu qui intègre la mort de tout petit aussitôt que mon fils arrive? Vous voyez, eh bien Joseph, comme Marie, a gardé tous ces événements dans son cœur. Et devant quelque chose de plus grand que lui, Joseph a accepté de ne pas tout comprendre. Parce que si Dieu devait toujours nous expliquer ce qui nous arrive, peut-être que par condescendance, il finirait par le faire, nous expliquer pourquoi telle difficulté ou telle adversité dans nos vies, ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, Dieu ne nous donnerait plus que ce que le plus, il ne nous donnerait plus que ce que l'on peut comprendre. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Il nous dirait, ok, tu veux comprendre, bah, ok, bah, je te fais comprendre, mais comme tu es tout petit, tu peux comprendre qu'avec un petit verre d'eau, mais c'est tellement plus grand. Alors, accepte d'avancer dans la foi. On voit que Joseph, il a eu peur aussi. C'est dit dans l'Évangile. Il a eu peur quand il doit revenir en Judée. Joseph eut peur parce que Archélaus régnait dans cette période et dans cette région-là. Eh bien, l'ange le rassure. Il intervient au bon moment. Lacordaire, ce grand dominicain, disait que la providence de Dieu se lèvera plus tôt que toi chaque matin. Vous y croyez, vous ? Moi, j'avoue que je m'inquiète, souvent, pour des choses inutiles en plus. Mais vous voyez, Joseph, il a fait confiance, il a accepté. Alors, je crois qu'on peut retenir de cette première partie deux choses. C'est que l'histoire du salut, elle s'accomplit en espérant contre toute espérance, dit l'Épître aux Romains au sujet d'Abraham. C'est vrai aussi pour Joseph. Au-delà de ce qui est immédiatement palpable, visible, eh bien, de croire que Dieu conduit et est maître de l'histoire. Il est maître de l'histoire. Et donc, reposons-nous sur cette réalité, sur ce mystère qui est là, que Dieu veille sur nous. Et c'est la foi, c'est l'espérance qui guide notre chemin. Deuxièmement, c'est que nos fidélités, celles de Joseph, parce qu'elle a été immédiatement attaquée, nos fidélités sont toujours le lieu de combat. Et c'est souvent dans l'épreuve, en accueillant ce que nous n'avons pas choisi, que Dieu nous modèle et nous façonne à son image. C'est ce bienheureux combat qui nous vaut de devenir des hommes et des femmes debout. Saint-Exupéry le dit, il n'est pas d'épreuve, il n'est pas d'amis fidèles. L'épreuve, vous voyez, nous fait sortir de notre canapé, elle nous ravive dans nos forces. Eh bien, c'est ce qu'a vécu Saint-Joseph. Il a vécu cela au tout début. Puis une deuxième partie rapidement, le courage créatif. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas directement? Ça serait tellement plus facile. Parce que Dieu a voulu Joseph. Dieu se réjouit que sa médiation, qui est unique, qui le sera unique sur la croix, il se réjouit que cette participation, eh bien, que cette médiation, pardon, elle soit participée. Et Joseph est associé au dessein de Dieu. Et Joseph est le vrai miracle qui sauve Marie et Jésus. Et vous voyez, le pape François dit, en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté et il fait ce qu'il faut pour fuir en Égypte de nuit. Et on a toujours l'impression, dit le pape, que quand on lit de manière un peu superficielle les récits de l'enfance de Jésus, que le monde, au fond, est à la merci des plus forts, de ceux qui exercent plus de pouvoir. Mais il dit, la bonne nouvelle de l'Évangile est de nous montrer comment, devant la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Dieu réussit toujours à le sauver, mais il a besoin de notre participation. Saint Augustin dit, Dieu qui nous a créés sans nous, ne veut pas nous sauver sans nous. Ok, il nous a créés, on n'a rien demandé. Par contre, pour être sauvé, il dit, il va falloir que tu mouilles la chemise. Je vais avoir besoin de toi pour sauver tes frères. Ça va dépendre de toi. Le salut, tu as toute ta place. À Fatima, la Vierge, elle dit, il y a beaucoup d'âmes qui se perdent parce que personne ne prie ni ne se sacrifie pour elles. Ça veut dire qu'on est tous reliés, que mon courage créatif de ne pas me laisser résigner par les événements, de me dire que Dieu m'a donné à mon propre conseil comme gardien de moi-même et gardien de mes frères, j'ai une responsabilité à avoir dans ce monde. Et Saint Joseph nous le montre, il l'a fait dans toute sa mesure, à toute la place qui était la sienne, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a été décisive. Bien peut-être que vous voyez de visiter, d'appeler des personnes qui sont seules, de sourire, vous voyez, de déployer en nous la charité, la créativité missionnaire, eh bien ça peut être un levier pour le monde. Si on sait ce que l'on fait, on sait plus rarement ce que fait ce que l'on a fait. Ça va ? Si on sait ce que l'on fait, on sait plus rarement ce que fait ce que l'on a fait. Je vous en reparlerai au déjeuner ce midi. Et je termine par les mots du pape François. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons pour inventer, pour trouver. Bon, c'est pas mal déjà. Vous réfléchirez à ça ce midi. Amen.